Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. N'oubliez pas de nous rejoindre dans le chat. Ce soir, on va parler de manga, de comics, de polar et puis on va broder parce qu'on n'aura sans doute pas assez de temps pour parler de tout ça. Allez, attention, générique.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb où on va passer une heure à vous projeter directement dans le cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics par l'intermédiaire des ondes radiophoniques. C'est ça la magie de la radio. Ce soir, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Luc. Ça va Luc ?
Ça va Seb, ça va.
Je suis également en compagnie de Nolwenn. Ça va Nolwenn ?
Ça va et toi ?
Eh ben oui, ça va. Et en compagnie de Richard.
Tout à fait, bonsoir à tous.
Eh ben, on est en bonne compagnie. On a prévu plein de trucs, pas assez. Donc j'ai prévu des solutions de secours. Mais vous allez voir, normalement, on va arriver à s'en sortir, ça va être plutôt cool.
Tu veux dire que Richard réussirait à être une roue de secours ?
Mais on compense en fait le fait qu'il n'ait pas assez de temps libre pour lire des livres et regarder des séries télé.
C'est ça, là actuellement je suis en roue libre et non pas une roue de secours.
Non, parce qu'il est vraiment roue.
Oui, mais c'est beau comme un camion.
Oh, non, tu peux pas dire ça. Non.
Bravo, très belle intervention de Nolwenn.
Vous imaginez Charlie Day en roue.
Ah non.
Ah ouais.
Ah oui, mais elle a mangé des chatons, c'est ça, au petit déjeuner, hein, c'est ça, c'est ce que j'ai.
Seulement la dernière pleine lune.
Seulement la dernière pleine
lune.
C'est pour ça qu'elle répond comme ça, Richard.
Vous connaissez mes points faibles.
Je nous garde une belle surprise pour tout à l'heure, sous la matière d'une jolie enveloppe qu'on va vous ouvrir
c'est
comme
passé,
ça.
C'est passé Noël, hein. Ça fait un mois. Le paquet cadeau, c'est plus...
Mais il me faut au moins Noël tous les mois, moi. Sinon, c'est pas drôle.
Oh, c'est quand ton anniversaire?
Au mois de mai.
D'accord.
N'hésitez pas à envoyer à Radio G, rue de la Rame.
Quel jour?
Le 26.
Ok. Damn. C'est noté.
Pourquoi?
Je suis du 3 mai.
Le 3, bah oui, mais t'es pas Gémeaux du coup.
Non.
C'est dommage.
Bref.
On va parler astrologie.
Ouais, on va parler astrologie. Bienvenue dans le... C'est Madame Soleil.
Horoscope, les poissons, côté sentimental.
Bon, on est parti quand même.
Luc, il est mort.
On n'en peut plus. On va quand même se recadrer un petit peu. Est-ce que tu veux commencer, Luc, pour nous mettre un petit peu de sombre, de dark
Un peu de manga.
Un peu de manga. Vous êtes qui?
Ah bah écoute,
vous êtes qui? Vous êtes Luc.
Ça fait deux fois que Luc fait du manga.
Non,
à la suite.
C'est la première fois.
C'est la première fois qu'il fait. Alors, il a fait un auteur japonais.
Oui, c'est
dans un format franco-belge.
Oui, voilà.
Mais là, il nous fait du manga
là,
pour de vrai.
Du vrai manga, ouais. Du vrai manga.
Eh ben écoute, c'est parti pour Bulle Noire.
Bulle de Noir. Quand le polar s'écrit en BD.
Et oui, aujourd'hui Seb et toute la bande voyagent au pays du soleil levant, comme on disait il y a longtemps. Et pour moi, incursion exotique dans un format que je ne fréquente que peu, le manga. Avec Le flic de la nuit de Kazuya Kudo et Shigeru Tsuchiyama.
Alors là, fais attention à toi Luc, tu prends de gros risques.
Pas tant que ça, puisque c'est un polar et un vrai avec femme lascive, meurtre, flingue et hémoglobine. En réalité, c'est plutôt un recueil de 5 enquêtes qui ont toutes pour héros 2 policiers, le vétéran Tetsu Harada et le jeune Hide. La première enquête s'intitule « Le papillon de la mort ». Des membres du clan de Yakuza Wakizaka sont retrouvés morts. mais ces morts sont étranges puisqu'ils semblent avoir succombé d'épuisement en pleine activité sexuelle. Un point commun entre toutes ces morts, une jeune femme, rapidement surnommée le papillon de la mort, parce qu'elle a un papillon tatoué entre les seins. Dans cette première enquête, la police veut faire vite parce que le chef de gang a promis une récompense de 10 millions d'yens pour la capture, morte ou vive, du papillon de la mort, et que toutes les bandes de Yakuza sont sur le pont pour capter cette récompense. Hide, le jeune Hide, arrive à suivre le papillon de la mort. Il appelle Tetsu. Ils sont à deux doigts de l'intercepter, mais mystérieusement, Tetsu la laisse s'échapper sous les yeux ébahis de Hide. Tetsu va tout expliquer à Hide, mais pour connaître cette mystérieuse raison, eh bien, chers auditeurs, chers Seb, chers Richard, chers Nolwenn, il vous faudra la découvrir en vous laissant succomber au plaisir de la lecture très étrange de ce manga.
Et comment as-tu vécu cette expérience de lecture ?
Alors, écoute, faut que je l'avoue, Le Flic de la Nuit, c'est mon premier manga, alors que ce format est ce qui sauve aujourd'hui le monde de l'édition en général et de la BD en particulier. C'est le secteur qui enregistre des scores de vente faramineux, et dans les bibliothèques, c'est celui qui compte le plus grand nombre de lecteurs. Et comme c'est mon premier manga, il m'a fallu réapprendre à lire. Un manga, autour de la table, je sais, vous savez, ça se lit à l'envers pour nous, Européens. Et à l'envers, complètement, ce qui m'a valu de recommencer l'album 3 fois. J'avais bien compris qu'il fallait l'ouvrir à l'opposé de mes habitudes, mais je pensais que la lecture des pages se faisait de gauche à droite. Eh ben non, perdu. Et donc, je ne comprenais rien. Il faut lire de droite à gauche. En fait, je m'y suis très bien fait. Les scénarios des 5 enquêtes relèvent du hard-boiled à l'américaine, qu'on peut résumer ainsi: meurtre ou trafic, flic, flingue, élimination des méchants. Et dans ces 5 enquêtes, on retrouve les inévitables yakuza à l'auriculaire coupé, des flics corrompus, l'incontournable mélange des policiers, des politiciens et des voyous, et la vengeance qui, depuis les origines du genre, reste le fonds de commerce le plus prolifique du polar.
Alors comme tu le dis, c'est pas très nouveau dans le polar, mais qu'est-ce que tu as vu de particulier toi dans ce manga, dans ce format de manga ?
D'abord, c'est que ça se passe au Japon. Et le Japon, c'est le Japon. Les personnages ont des comportements qui peuvent nous paraître, à nous, Européens, dénués d'émotions. Quand par exemple, Arada veut faire comprendre à Hide qu'il va commettre une imprudence, il lui balance violemment son poing dans la figure et Hide va s'écraser contre un fauteuil qu'il démolit dans sa chute. Et pourtant, Arada a de l'affection pour Hide. En fait, pour les familiers d'un certain cinéma, je pense à Violent Cop de Takeshi Kitano, ou au Japon, ou alors en Chine, A Touch of Sin de Ya Zhangke, ou encore l'extraordinaire Infernal Affairs des Hongkongais Andrew Lau ou Alan Mark, ces comportements leur seront familiers. Dans ces moments, il n'y a pas d'affect, juste la nécessité de représenter la situation. Il en va de même d'ailleurs pour les relations sexuelles. Pour nous, elles apparaissent comme pornographiques, en tout cas pour moi. Alors qu'en réalité, il me semble qu'elles ne font que nous signifier la nature de la relation.
Ok, et toi qui es toujours très attentif au graphisme, t'en penses quoi de ce manga, en définitive ?
Il faut donc en venir bien sûr au graphisme. Il est de Shigeru Tsuchiyama. Flic de la Nuit est un manga, et pour un néophyte, il est difficile de le distinguer graphiquement d'autres mangas. Le format est standard, on pourrait parler de grand carnet. Si la couverture est en couleur, les dessins à l'intérieur sont en noir et blanc. Ce qu'on peut remarquer dans Flic de la Nuit, c'est la représentation du mouvement et de l'énergie. Beaucoup de traits, des phénomènes d'éblouissement autour de la tête des personnages. Ils courent, bondissent, empoignent souvent dans des scènes qui vont vers le lecteur. Les véhicules lui foncent dessus, vers le lecteur. Les personnages courent vers lui. Et si ça ne suffisait pas, de nouveau la technique de l'éblouissement. Et puis, il y a des idéogrammes japonais pour signifier sans doute les sons. Mais là, je suis pas capable de les lire. Donc, ce graphisme, il est percutant. Pour moi, il n'était pas novateur, mais il est percutant dans les signes qu'il manifeste. Étonnamment, bien qu'on soit au plein cœur du Japon, Ben, les visages des personnages sont petit p. Alors, je suis pas spécialiste, mais malgré tout, c'est ce qu'on peut observer. Les yeux ne sont pas étirés, et c'est encore plus flagrant chez les personnages féminins qui sont vraiment, à mes yeux, des personnages occidentaux. Kazuya Kudo est au scénario. Il a parfaitement intégré les codes du polar, et les cinq enquêtes proposées sont vraiment efficaces. Et pour certaines, la résolution est bien loin des conventions. Flic de la nuit, bah, c'est publié par les éditions Black Box, installé à Pontchâteau, en Loire-Atlantique, tout à côté de chez nous. Voilà.
Bah, c'est stylé. Alors, je l'ai pas lu. Je le découvre en même temps que toi. Et je trouve qu'il a un style qui est très rétro. Donc, il faudra vérifier la date de sortie d'origine. Mais par contre, j'ai aussi l'impression que, il y a beaucoup d'inspi américaine dedans. On n'est pas sur un style manga classique. On est sur un style manga inspi américaine. Ah, je ne sais pas si ça te fait la même inspiration, Richard.
Oui, il est sorti en 86 et en vrai, le personnage principal me fait beaucoup, beaucoup penser à City Hunter, à Nicky Larson.
Ouais. Et Ryo Saeba dans la langue.
Et à côté de moi, j'ai quelqu'un qui les a lus. Et ça t'a fait la même impression ou pas?
Alors moi, j'ai même pas eu besoin d'ouvrir le manga pour trouver une ressemblance avec City Hunter. Ouais. Regarde la quatrième de couverture.
Oui, bah oui.
Voilà, la quatrième de couverture m'a tout de suite évoqué City Hunter.
Comme c'est très codé dans ce langage, parce que Nolwenn parle de manière très très codée, faut décrypter ses propos. Elle dit regarde la quatrième de couverture, donc oui. La quatrième de couverture, c'est une main qui tient un flingue.
Voilà.
C'est ça, hein, j'ai bien.
Oui,
j'ai
c'est
bien
ça.
Dit, hein.
Et il y a juste, en fait, c'est noir et blanc, mais avec deux autres couleurs en rouge et bleu. Mm-hmm. Et vraiment, les couleurs rouge et bleu, c'est dans les City Hunter.
C'est le t-shirt de Ryo Saeba, le personnage, et sa veste bleu ciel.
Déjà oui, c'est le code couleur de... Mais là, on va très très loin. En fait, tout simplement, sur les pochettes de certaines éditions des mangas City Hunter, il y a des éditions de luxe ou je sais plus trop quoi. Et en fait, les couleurs sont faites avec juste des points rouge et bleu sur ces éditions-là, si ma mémoire est correcte. Et là, du coup, enfin, ça y fait penser. Même juste la première de couverture avec... c'est le héros principal,
oui.
Je pense.
Et, oui, c'est Arada.
Et un personnage féminin qui doit être présent dans l'intrigue assez régulièrement.
Oui.
Même là, en fait, les City Hunter, pareil, il y a une superposition de un ou deux personnages avec cette dynamique-là.
Alors, ce qu'il faut savoir, tu parles de City Hunter, c'est de ça date de quand, City Hunter?
City Hunter est de 85, je vérifiais aussi.
Et donc là, on est 86. En 86, donc on est dans l'époque, enfin, dans une époque. Voilà, alors... Moi, j'ai pas cette connaissance-là, cette capacité à décrypter les ressemblances ou les inspirations. T'as raison, Seb. Hein, t'as dit qu'il fallait meubler, donc hein, je.
Ah là, mais t'as raison.
T'as raison, Seb. Que on est dans un. C'est pour ça que je parle de Hard Boiled, donc le standard du polar américain, et on est vraiment dans une scénarisation à l'américaine. Enfin, on est vraiment là-dedans, hein. On est complètement là-dedans. C'est pour ça que, en fait, moi, je suis pas dépaysé. Moi, je me retrouve en terrain inconnu, chez tous les grands du polar américain. Il me semble que, cependant, la résolution de deux des enquêtes sortent complètement du cadre traditionnel des enquêtes policières. J'en dis pas plus parce que
il faut le lire
parce que c'est très étrange. Le choix qui a été fait de résolution est vraiment très très étrange. Je crois que je l'ai rarement vu et rarement lu dans quelque polar que ce soit.
Tu veux dire la résolution est étrange du fait qu'il est policier?
Non, l'enquête se termine. Elle se termine d'une manière particulière.
D'accord.
Et ce n'est pas forcément le policier qui résout l'enquête, et ce n'est pas forcément les méchants qui perdent.
D'accord.
Voilà, c'est très mystérieux. Voilà, on en parlera hors micro, mais pour ne pas dévoiler, parce qu'il faut pas spoiler, enfin, ce serait idiot de divulguer. Moi, je pense que ça, au moins pour ça, ça mérite d'être lu.
Et un truc que t'as pas forcément dit dans ta chronique, et ouais. c'est cool que t'aies commencé par ça, c'est que c'est un one shot, c'est un seul tome qui se suffit, et il y a pas de suite derrière.
Voilà. Alors ça, c'était une des conditions pour que je puisse parler d'un manga en polar, c'est que ça soit un one shot.
Ouais.
Je ne voulais pas affronter les 100 épisodes de One Piece parce que je n'ai pas la force ni l'énergie.
Moi non plus, t'inquiète pas.
juste revenir sur la couverture, parce que c'est rigolo que Nolwenn, ça te fasse penser à City Hunter. Moi, le premier truc que j'ai vu en voyant cette couverture, c'était surtout Burt Reynolds.
Il y a effectivement Burt Reynolds dans sa série de polar déjanté à New York.
Bon.
Voilà. Il y a autre chose sur la couverture que.
Ah.
En fait, en parlant de City Hunter, je me rends compte que le traitement des couleurs est. Alors, on parle d'un manga, donc c'est souvent noir et blanc, mais en tout cas, la couverture, c'est ce qui va attirer l'œil quand on va ouvrir le. Enfin, quand on va s'intéresser au manga. Et là, les couleurs par rapport à City Hunter, les couvertures. C'est très aux couleurs pastel, c'est oui. très doux, c'est cooling. Là, ça pète.
Là, c'est flashy.
C'est éblouissant. Il y a de la lumière, il y a de la saturation. C'est
je dirais même criard.
Une
un peu,
des
quand
différences,
même.
Presque criard. Ah ben, ouais. Il y a pas de nuances douces.
Pour le coup, toi, tu les as les City Hunter et tu les as lus. Moi, je suis plus animé.
J'ai vu les animés aussi.
Ouais. Ouais. Ce tome que tu nous as présenté, Le flic de la nuit. Clairement, j'ai l'impression qu'il s'adresse plus à un public adulte du fait qu'il y a des scènes de sexe et tout ça. City Hunter, c'est pas aussi explicite.
Non, City Hunter, c'est pas du tout.
Même si la version papier est moins édulcorée que la version animée.
Elle est pas aussi explicite.
Elle est pas aussi explicite.
Ce que
Luc
me met devant les yeux, mais enfin, un public.
Ok.
City Hunter, c'est vraiment, c'est abordable. Enfin. On voit des tétés. Voilà. On voit des tétés.
Elle a lâché le mot tété deux fois à la radio. Bravo.
Allez,
elle a pas dit ça.
Je vous propose.
Ah non, Luc.
Où est-on politiquement correct?
Mais écoute, moi Seb, il m'a dit tout est possible. Donc,
dans la mesure du raisonnable,
on peut même décrire les images et tout.
Ah mais ça. On verra ça tout à l'heure. Je vous propose qu'on redescende un tout petit peu. On va redescendre avec une toute petite musique très douce, très calme. Je vous propose un petit Purple Rain de Prince.
Purple rain.
Purple Rain avec Prince sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes de retour dans la caisse de Seb. On s'était un peu échaudé là, il y a quelques... chauffé même, plus qu'échaudé.
Oui.
Mais on va reparler de choses plus.
Mais chaton échaudé, mangé à la pleine lune, ne craint pas l'eau chaude, hein, ou l'eau froide, ou je sais pas quoi.
On peut faire des trucs comme ça. Eh ben, je vous propose moi de faire d'enchaîner ma petite chronique à moi. J'en ai travaillé une vachement bien. J'espère que ça va vous plaire. J'ai passé du temps et en fait j'ai l'impression que ça va passer en quelques secondes et qu'on verra pas l'intensité du boulot que j'ai fait. Mais bon.
Bah, écoute, on verra si ça valait le coup que tu finisses à 4h du matin.
C'est ça.
Ouais. Et que ton fils te réveille parce qu'il avait fait un cauchemar.
Bah, que ça oui. Coucou mon chaton, tu vas te coucher tôt ce soir. Hein. De toute façon, j'ai voulu faire un truc. Il y a qu'en bossant qu'on arrive à faire des trucs. On va voir si c'est plutôt pas mal. Ok. Ce soir, je vais vous parler de Rain, de Joe Hill au scénario, de David M. Bauer au scénario, de Zoe Sorogood, je sais pas comment le prononcer, au dessin.
Sorogood.
Et de Chris O'Halloran aux couleurs, et c'est publié aux éditions iComics. Laissez-moi vous mettre dans le contexte. Imaginez Boulder, une petite ville dans le Colorado, aux États-Unis. Nous sommes le 26 août et il fait 33 degrés à l'extérieur. Dans Jackdaw Street, tout est calme et, par ce temps-là, tout le monde est dehors, ou presque. Un des voisins bricole sur son toit, tandis qu'une des voisines profite du beau temps pour parfaire son bronzage. Non loin de là, les membres d'une secte chelou chantent un cantique annonciateur de fin du monde. Des doudingues illuminés, mais peu dangereux. Tel un vampire, un jeune garçon vêtu d'une cape, dans la pénombre d'un garage, interpelle une jeune femme. Il s'agit d'Onessa Kolspeck. Elle est pressée car elle attend avec impatience l'arrivée de sa compagne, Yolanda, avec qui elle va emménager ce jour. C'est son rayon de soleil et sans doute le plus beau jour de sa vie. L'annonce de son homosexualité ayant définitivement coupé les ponts avec ses parents, elle a pu compter sur les parents de Yolanda pour l'accueillir comme leur propre fille. Cette journée ne pourrait probablement pas être plus belle.
Nous interrompons votre programme pour un flash spécial d'information. Nous apprenons à l'instant que la ville de Boulder, dans le Colorado, vient d'être frappée par ce que beaucoup qualifient d'une pluie de cristal. Un événement climatique sans précédent s'est abattu sur la ville pendant 8 minutes, causant le décès d'environ 8000 personnes. La cause de cette pluie d'aiguilles cristallines est à l'instant où je vous parle toujours inconnue. Si l'incident semble être isolé, nous vous conseillons cependant de rester à l'intérieur. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lorsque nous aurons des informations plus précises.
En quelques instants, Onessa Kolspeck a tout perdu. Son seul bonheur, l'amour de sa vie, s'est fait transpercer de plusieurs centaines d'aiguilles, juste sous ses yeux. Tout comme de nombreuses personnes du voisinage, et la mère de Yolanda, mais les autres, elles s'en moquent un peu. Avec l'aide de la maman de Templeton Blake, le jeune vampire, qui souffre en fait d'une forme d'allergie au soleil à cause de médicaments, elles vont rapatrier les corps de la rue vers les intérieurs, et Onessa Kolspeck va pouvoir commencer une période de deuil. Mais les infos ne sont pas bonnes.
Nouveau flash spécial, les experts du sujet penchent pour un cas extrêmement rare d'une ampleur sans précédent de fulgurite. La fulgurite se forme quand la foudre amalgame des sédiments et minéraux du sol dans un cristal. Notre président oriente quant à lui ses réflexions vers une attaque d'un état ennemi et promet une vengeance et une réplique à la hauteur du nombre des victimes. Le National Weather Service invite à la plus grande prudence. En effet, Les nuages ne se sont pas dissipés et semblent se diriger vers l'est en direction de Denver, suggérant de possibles nouvelles averses. Nous vous invitons de nouveau à rester à couvert dans l'attente de nouvelles informations.
Dans ce contexte apocalyptique, c'est dur à dire, Nessakel se raccroche à une dernière chose, une dernière idée. Rejoindre Denver et le père de Yolanda, le seul morceau de famille qui lui reste. Mais la route est longue, le terrain peu praticable, et le risque de subir une nouvelle averse mortelle encore bien présent. Mais elle est déterminée à accomplir ce voyage. Pour elle, pour le père de Yolanda, et pour comprendre ce qui rendait son amour pour Yolanda si fort. Alors je viens seulement de vous raconter les 20 premières pages de cette histoire. Une histoire qui tourne autour de l'amour, de l'horreur, de la folie, avec quelques accents écologiques. Le road trip physique et introspectif de notre héroïne ne va bien entendu pas être de tout repos, puisqu'elle va rencontrer un certain nombre de problèmes au cours de route. Et oui, à chaque fois qu'un événement hors norme se produit, le genre humain est toujours capable de montrer que faire pire, on peut faire et on va faire. Rain, c'est un ouvrage qui marque. Tout d'abord parce que son histoire est aussi simple qu'efficace. La recherche d'une personne dans un monde ravagé par une catastrophe climatique inédite. Ça, on l'a déjà vu plein de fois, c'est tous les films de zombies, c'est tous les films de fin du monde, on cherche une personne. Mais là, on cherche pas son amour, puisque son amour est déjà perdu, on cherche le seul membre de famille qu'il nous reste. Et ça, c'est une histoire d'amour et d'horreur que l'on doit à une des plumes les plus originales dans le genre, Joe Hill. Une plume qu'il n'est plus nécessaire de présenter en tant que fils de, tant il a réussi à imposer son style propre et efficace. Mais c'est aussi une œuvre qui marque par le style graphique très particulier de Zoe Sorogood. Un style ample avec un ancrage très discret, où les personnages semblent plus filiformes et laxes que la normale. Entendez par là que leurs articulations semblent occuper plus de place qu'elles ne devraient, leur donnant sur certains angles des allures de marionnettes. Mais cette composition des personnages permet aussi de mieux fluidifier l'action et d'ajouter une couche de grotesque à certaines scènes d'horreur. La composition propose le plus souvent des bandes, ce qui permet de mieux appréhender les décors, mais surtout, selon moi, de resserrer l'attention sur les visages et les émotions qu'ils dégagent, un peu comme dans un western à la Sergio Leone. Une comparaison renforcée par le choix d'un panel de couleurs ternes tout en aplats, qui sont renforcés par des filtres et ambiances d'émotion. Vous savez, ces vignettes sur fond jaune et violet qui vous laissent parfois une impression bizarre, mais qui permettent de ressentir toute la tension de la scène. L'ensemble de l'ouvrage nous plonge dans une réelle fin du monde, celle ce qui se passe dehors, l'apocalypse climatique, mais aussi celle du fond du cœur, quand on perd un être cher. Si Joe Hill est à coup sûr un gage de qualité sur un ouvrage, vous pouvez être sûr que le nom de Zoe Sorogood deviendra lui aussi un déclencheur d'achat. Alors, Honeysuckle atteindra-t-elle son but saine et sauve? Le père de Yolanda est-il toujours vivant? Connaîtrons-nous l'origine de cette pluie d'aiguilles, cause naturelle liée au dérèglement climatique, ou simplement arme d'un nouveau genre? Eh bien, seule la lecture de Rain vous le dira. Rain, c'est publié aux éditions iComics, c'est de Joe Hill et David M. Bauer au scénario, de Zoe Sorogood au dessin, avec des couleurs de Chris O'Halloran.
Eh ben, bravo! Finalement, tu l'as faite?
Ouais.
Et puis, qu'est-ce qu'elle est scénarisée, cette chronique? les journaux intercalés, vraiment, t'as bossé, t'as vraiment bien fait de travailler jusqu'à 4 heures du matin.
Faudrait que tu fasses plus souvent.
Ouais, ouais. Je vais arrêter de dormir, en fait. Je trouve que le journaliste, en plus, a une voix hyper sexy.
Il est dedans, hein.
Tu l'as enregistré à quelle heure, si c'est pas discret?
Ça, j'ai dû l'enregistrer à minuit et demi.
Ouais.
Puis après, faire un peu de montage et tout.
Mais pour le coup, c'est cool. Et t'as pas été si vite que ça, non? T'as pris ton temps, c'était très bien.
Ouais, je sais pas combien de temps j'ai tenu, mais c'est pas très long. Hein.
Je crois que t'as dû tenir 6 minutes.
Pas mal. J'aurais voulu tenir 8 minutes, les 8 minutes de la première averse. Parce que l'averse de l'aiguille dure 8 minutes la
D'accord,
première.
D'accord, ok.
Bah oui, mais non, c'est quand on feuillette cet album, qui a d'ailleurs un format assez étrange puisqu'il est plus long, plus haut que large, hein, c'est un format un peu atypique, et qu'on retrouve dans les, tu en as parlé, dans les cases.
Ouais.
Il y a une mise en page des cases qui est vraiment très particulière, souvent tout en longueur, tout dans le travers de la page, ou alors tout en hauteur, donc il y en a beaucoup de pleine page. Je trouve que c'est assez, enfin il y a une double page là qui est magnifique, hein, avec la pluie, des cases qui sont intégrées dedans. Je trouve que c'est vraiment très très beau.
Cette case là, cette double page, elle est encore d'autant plus importante et intéressante qu'on a l'impression qu'il pleut simplement de la pluie, alors que ce sont des aiguilles de cristal qui traversent tout.
Cristal. Ouais. Ouais. Donc tu veux pas nous dire qu'est-ce que c'est ?
Ah bah, il faut le lire. Je dirais que c'est ça aussi l'intérêt de lire un livre de Joël, c'est que les conclusions ne sont jamais celles qu'on attend. Là où son père avait tendance à mettre des fins du monde apocalyptiques, et lorsqu'il était sous le pseudo de Richard Bachman, il mettait des choses un peu plus intimistes et plus réalistes. Il arrive à trouver un lien toujours entre ça, et ce sont souvent les émotions et les gens eux-mêmes qui sont la réponse à des choses beaucoup plus grandes qu'eux. Mais pour le fait, la conclusion est plutôt surprenante, et je vous inviterai à y aller. Alors, c'est réservé à vous en doutez bien, à des personnes, à des lecteurs avertis. Mmh. Hein, il y a des yeux qui
c'est un peu gore, hein, ça. Ouais. Il y a une machette qui tranche quelqu'un, là, c'est bien fait. En tout cas, c'est bien dessiné.
Non, puis c'est super agréable. C'est un one shot. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et c'est vraiment agréable à lire. Donc, n'hésitez pas.
Du coup, le phénomène climatique, j'ai spoilé ma question. Est-ce que les pluies de cristal, c'est quelque chose qui arrive vraiment ? C'est la question que je me pose.
Alors, de ce que j'ai compris, la fulgurite, en fait, c'est quelque chose qui peut vraiment se former dans l'atmosphère, mais ça reste quelque chose de très, très anecdotique. On va avoir un petit bout de machin qui va tomber et qu'on va pouvoir retrouver dans un champ, mais c'est jamais d'une ampleur où ça va pleuvoir sur toute une ville.
Peut-être pas de 15 centimètres de long non plus, comme c'est
voilà.
Dessiné.
Ok, d'accord. Dans l'ouvrage, c'est un peu fictionnel, mais ils en reparlent pas mal dans l'ouvrage, et c'est une idée qu'a eu Joly. Il s'est dit, qu'est-ce qu'on peut mettre comme événement climatique qui ferait se faire pipi dessus tout le monde? Il fait des aiguilles qui nous tomberaient dessus, qui traverseraient tout. Ce serait quand même assez dingue. Et tout au long de l'ouvrage, en fait, c'est ponctué par les infos qui expliquent ce qui peut se passer à l'échelle mondiale, en fait, avec ça. Avec des trucs qui finissent par avoir la taille d'un gros poignard, plutôt qu'une aiguille. Donc c'est flippant.
Prenez des parapluies.
En métal.
En métal, ouais. Surtout.
Oui. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une explication à la couverture? Ces deux personnes qui sont face à face et qui sont transpercées, c'est ça, hein?
Ouais, elles sont transpercées. En fait, c'est je sais plus parler. En fait, la pluie d'aiguilles de cristal va les séparer. Donc, elle les tue, mine de rien, Honeysuckle intérieurement et Yolanda physiquement. Mm-hmm. Et c'est pourtant cette pluie qui va permettre à Honeysuckle de comprendre pourquoi elle aimait tant Yolanda, en fait.
Okay.
Et cette connexion qui les relie et qui les tue littéralement toutes les deux sur la couverture, c'est ça.
Donc à la base, c'est un comics.
Ouais.
Et pour le coup, à la fin, vous avez une petite série de couvertures, puisque au States, ils aiment bien changer les couvertures ou demander à des copains externes de faire les couvertures, pas avec le même style graphique que l'histoire.
Et elles sont toutes ultra belles.
Ouais, ouais. Juste vraiment, je reviens sur la couverture dont Luc parlait. J'ai un peu de mal avec le bras qui est hyper long là.
C'est ce côté marionnette que je disais. On a vraiment l'impression d'avoir. Alors, ça marche pour certains personnages qui sont plutôt de type ado, où un ado c'est forcément complètement déguingandé, désarticulé, et ça sait pas se tenir parce que la colonne vertébrale ne marche pas. Ah. Alors que sur certains adultes. Ça marche un peu moins bien. Mais ils ont tous une espèce de difformité dans leurs proportions qui les rend uniques à chaque fois, en fait.
Okay. Moi, je trouve ça, justement, je l'ai regardé longtemps, cette main, en me demandant, mais finalement, c'est la main de qui qu'on voit sur cette couverture. Et finalement, je trouve ça intéressant, le côté non réaliste et déstructuré. Je trouve que c'est... Moi, je trouvais ça intéressant, hein.
Le côté marionnette, il ressort bien aussi par les yeux. Ils sont parfois très, très grands, très ronds. Je cherche des planches, surtout quand les personnages sont en train de mourir.
Il y en a beaucoup.
Mais c'est au début, quand l'héroïne voit l'amour de sa vie mourir sous ses yeux, je me souviens de la planche où vraiment elle a les yeux écarquillés. Ça fait très marionnette aussi.
Ben, c'est aussi ça qui m'a fait me rapprocher des westerns de Sergio Leone, où les yeux, le regard a quand même beaucoup d'importance sur le passage des sentiments dans ces
dans ces westerns là, et ça marche bien. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien.
Surtout ceux de Charles Bronson quand il joue de l'harmonica. Ils sont pas très ouverts.
Mais Charles Bronson, de base, il est pas très ouvert. Comme Ivan Cliff, c'est pareil, pas très très. Mais il y avait des personnes avec des petits yeux comme ça. Ok. On va faire un peu de pub, mais non sponsorisée. Je la fais bien volontiers parce que j'avais envie de la faire. Je voulais faire un petit aparté sur une opération que fait les éditions Kiun pour fêter leurs 20 ans d'existence. Alors, pour vous donner un peu de contexte, les éditions Kiun, elles ont été créées par deux personnes en octobre 2003. Ce qui fait que le début 2024, ça correspond quand même un petit peu à leurs 20 ans. Et c'est un éditeur de manga d'origine indépendante. Ils ont commencé à travailler directement avec le Japon pour avoir des créations originales. Et aujourd'hui, c'est un des acteurs du manga les plus reconnus, avec des titres que vous avez tous entendu parler, à savoir My Hero Academia, Frieren, les carnets de Lovecraft, Jujutsu Kaisen, qui marche à fond. Donc là, ils ont décidé de faire un petit un événement sur toute l'année, où à chaque fois que vous allez acheter deux mangas de leur collection, vous allez pouvoir avoir une médaille à l'effigie de 6 des grandes séries de l'éditeur. Des médailles qui font pas de cheap, elles pèsent leur poids, elles sont gravées d'un côté, et une espèce de, c'est pas une gravure, mais c'est très, c'est comme un dessin coloré mais imprimé sur la pièce de l'autre côté. Les médailles, vous allez avoir My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Frieren, Rane Banashi, les carnets de l'apothicaire et les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Et vous avez, la médaille change toutes les deux mois, sachant qu'un coffret sera disponible quand vous allez acheter la deuxième médaille, enfin des deuxièmes mangas. Pourquoi je vous parle de ça aussi, c'est que My Hero Academia, qui ne connaît pas My Hero Academia dans cette pièce, levez la main.
Je connais de nom, je vois beaucoup de cosplay en festival. Pour faire vite de ce que j'en ai compris, c'est un gars qui a des pouvoirs et qui rejoint une école de jeunes élèves super-héros.
Alors c'est un petit peu plus le pitch d'origine est un peu plus compliqué que ça.
Dis-moi.
C'est-à-dire qu'on est dans un monde où tout le monde peut avoir des super pouvoirs, okay, à condition de...
Et lui il en a pas.
Et lui c'est un des seuls en fait.
Si, il
veut être un super héros comme beaucoup d'enfants, sauf qu'il sa condition physique ne lui permettra pas de devenir un super héros. Et il va rencontrer le plus grand super héros de tous les temps qui va lui octroyer une fraction de son pouvoir et le désigner comme son successeur.
Batman?
Non. Ah. C'est All Might. C'est un manga qui cartonne, qui est vraiment très très cool. On est dans du pur shonen où on va casser toutes les barrières pour atteindre son objectif. Il y a plein de personnages, il y a une école, c'est pas Harry Potter, il y a pas de magie, mais ils ont tous des super pouvoirs avec des capacités cheloues. L'animation elle est cool, il y a plein de personnages qui sont très différents les uns des autres et qui sont dans le cassage de caricatures, ce qui fonctionne plutôt bien. Et c'est une série qui marche bien, c'est un manga qui marche bien et qui est vraiment plutôt cool. Chez Kiun, on a aussi Frieren, qui est un manga dont j'ai parlé dans l'émission il y a quelques temps déjà, qui est un manga très intéressant puisqu'ensuite on suit l'histoire d'une jeune elfe, jeune, elle doit déjà avoir 200 ou 300 ans, qui va perdre ses compagnons avec qui elle a passé quasiment 30 ans. Et sauf que pour elle, c'est passé pas beaucoup de temps. Et du coup, elle va recréer un nouveau groupe et essayer de comprendre en fait comment elle peut s'attacher et comment ses sentiments, ses émotions, qui pour elle passent en un court laps de temps, elle peut arriver à nouer des relations avec des gens qui n'ont pas la même durée de vie qu'elle. Donc c'est hyper intéressant. En plus, c'est hyper joli. C'est très très détaillé. Enfin, tu vois Luc, en termes de dessin. Et c'est une série qui pose plein de questions philosophiques et qui est vraiment cool. Donc c'est aussi l'occasion d'en profiter pour lire ça. On a les carnets de l'apothicaire, donc je pourrais pas vous raconter l'histoire. Jujutsu Kaisen, c'est pareil, c'est une histoire avec des démons, mais je ne connais pas l'histoire. Et puis on a ce pourquoi je vais craquer quasiment toute l'année.
Les
chefs-d'œuvre de Lovecraft,
oui, forcément,
dont les ouvrages sont absolument fabuleux, qui sont tous réalisés par Gou Tanabe. Je vous les passe si vous voulez feuilleter.
J'ai vu les titres, je suis très intéressée.
C'est juste magnifique. Magnifique non seulement dans l'adaptation et l'histoire, mais aussi effectivement, comme tu le dis Richard, dans la couverture, puisque il y a un travail avec un faux cuir, on a une espèce d'impression, je sais pas comment on appelle ça, puisque la couverture est en relief. Ça fait un peu sérigraphie.
Oui, c'est sérigraphie.
Embauchoir.
À l'embauchoir,
c'est presque de l'embauchoir. Hein. On est presque de l'embauchoir. Hein.
Les ouvrages sont...
Il y a du relief.
Le relief, on le retrouve jusque sur la tranche, avec le titre qui est vraiment...
Tu les as achetés ?
Oui, je les ai achetés, ouais.
T'as la médaille ?
Non, puisque la médaille de Lovecraft, elle interviendra en octobre. En fait, tu vas avoir une nouvelle médaille, mais je les achèterai au fur et à mesure pour avoir les médailles. Donc, des ouvrages qui sont non seulement très beaux dans leurs éditions, parce que voilà, il y a un travail faux cuir et tout qui est vraiment très très stylé, ce qui en fait des ouvrages un peu plus onéreux que d'acheter un manga plutôt classique. Tu vois, un Frieren, on doit être à 7,50€, alors que l'Abomination de Dunwich que tu as dans les mains, on doit être à 18€. Donc ça reste quand même des ouvrages qui sont un peu plus chers. Et puis des ouvrages qui sont magnifiques, parce que Gutanabe, c'est un auteur de manga qui sait nous coller les miquettes comme jamais. Il a compris l'essence de Lovecraft. Il travaille sur des noirs qui sont très noirs, des tronches qui font peur, même des gens qui sont normaux. On n'aurait pas envie de les croiser au détour d'un chemin ou dans une ruelle un peu sombre. Et ça donne un ouvrage qui est des ouvrages qui sont assez fabuleux à lire. Et on a bien toute l'ambiance de Lovecraft dans ces ouvrages-là.
Ah ben, à feuilleter, oui. Moi, j'ai une passion pour Lovecraft que j'ai lu beaucoup de Lovecraft en son temps. Effectivement, ce qu'on voit là, on est vraiment dans cet univers complètement angoissant de Lovecraft, avec ces personnages qui surgissent. C'est un beau dessin en noir et blanc. Enfin, c'est vraiment un graphisme noir et blanc qui est vraiment très 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 beau,
très détaillé en plus. Il y a beaucoup de détails de décor. Hein.
C'est très fouillé, ouais.
Il y a de la matière.
Et rien qu'en le feuilletant, on est déjà dans le climat de chez Lovecraft. Hein. C'est, enfin, on y est quoi. Hein. Pour ceux qui connaissent cet univers-là, ils seront pas dépaysés. Ouais.
Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi une bonne entrée en matière, puisque ce sera peut-être un petit peu plus accessible en forme de manga qu'en forme de roman, parce que ça reste quand même assez exigeant et faut rentrer dedans.
Oui, bah Lovecraft, oui, c'est loin d'être une lecture facile. Hein. Déjà, elle est angoissante et stylistiquement, oui, c'est loin d'être facile. Ouais. Effectivement, oui, ça peut être effectivement une entrée en matière intéressante, ouais.
Alors moi, quand j'ai commencé, j'ai essayé de me mettre à lire de Lovecraft. C'était longtemps.
T'étais jeune.
Ah, j'étais jeune.
Ouais, il y a 2 ans.
Non, j'étais encore en études. En fait, j'ai commencé à lire et vraiment l'écriture, ça m'a déjà. Il y a pas une femme ou alors très rarement dans les bouquins et j'étais là, moyen quand même. Bon, chacun son style. Et juste, j'avais du mal à lire et j'ai écouté des lectures, j'ai écouté sous forme de podcast et je pense que c'est une bonne alternative pour ceux qui arrivent pas à se mettre au roman vraiment aussi courtes puissent être les nouvelles. Et le manga, effectivement, c'est très sombre, j'aime beaucoup. En revanche, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément poser de visuel sur ce que j'imagine, surtout quand c'est de l'horreur ou de l'horrifique. Et là, du coup, ça pose un visuel sur les créatures, ça pose... Enfin, moi, je me rappelle de... je crois la dernière que j'ai écoutée, c'est des bruits dans la nuit, je crois,
ouais.
Ou des murmures dans la nuit. Et en fait, la façon dont ils décrivent les bestioles qui arrivent, moi, si je les voyais dessinées, je serais déçue parce que la façon dont je me les représente, elle est vraiment... ça colle au Lovecraftien de pas vraiment savoir à quoi...
Alors,
à quel trait attribuer à la bête.
C'est ça aussi où c'est intéressant quand même avec Gutanabe, c'est qu'il saura te montrer juste ce qu'il faut et garder dans l'ombre ce qu'il faut. T'auras aucune créature ultra détaillée en lumière comme ça. T'auras juste des petits bouts, des petites choses comme ça qui vont causer plus de stress et d'angoisse. Mais... c'est pour ça que je trouve que c'est voilà, là on a beaucoup d'ombre et ça colle parfaitement en fait à l'ambiance que met Lovecraft où les créatures sont décrites mais que partiellement et on se fait une idée de certaines créatures qui sont sous forme de tonneaux avec des espèces de choses comme ça. L'idée de la créature, elle est complètement abscon en fait.
Les souvenirs que j'ai, enfin les plus chez Lovecraft, ce qu'on voit souvent, c'est ces personnages qui sont souterrains et qui vont surgir souvent avec très proches des grenouilles. En fait, il y a toujours une grande bouche, des gros yeux.
Ou des crustacés parfois.
Ouais, c'est ça. C'est
très, très arthropode.
On est très là-dedans. Et c'est vrai que l'angoisse. Enfin, moi, j'aime beaucoup le stylistiquement, même si ça peut pas être un style d'écriture. Hyper classique et vieillot, presque vieillot, hein, Lovecraft, mais ce côté angoissant, plus qu'horrifique, angoissant qu'il arrive à fabriquer. Moi, je sais que j'ai toujours marché là-dedans. Alors, t'as raison, Nolwenn, sur la question de la représentation. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut représenter, surtout dans un univers aussi onirique que celui de Lovecraft? Moi, ce que j'ai feuilleté là, alors c'est pas forcément des textes, je crois que j'en connais un sur les trois que j'ai lus.
Les plus connus, ça sera peut-être l'abomination de Dunwich et la couleur tombée du ciel.
Ouais, bah c'est l'abomination que j'ai dû lire, mais c'est, à nouveau c'est très ancien pour moi, c'est des lectures très anciennes, mais qui m'ont frappé. Moi je trouve ça, on va dire que ça me semble vachement intéressant, l'ensemble, hein, pour quelqu'un qui connaît pas Lovecraft, mais et donc qui n'a pas de référence, qui n'a pas de code, qui lit un manga, lit un manga. Ça me semble intéressant. Enfin, en tout cas, ça me semble vachement, très beau, hein, de toute façon. Je les avais déjà vus, ces mangas.
Alors, je sais pas combien il y en a dans la collection actuellement, mais vous avez Les Montagnes Hallucinées, vous avez La Maison de la Sorcière. Il y a quelques grands titres et ça continue en fait à sortir. Et je sais pas si Gutanabe a fait d'autres choses que les chefs de Lovecraft, mais en tout cas, qu'il continue à tous les faire, il le fait très bien.
Je vais peut-être pousser le délire un peu loin, mais je vais revenir sur la couverture. C'est souple, c'est gluant, ça colle au doigt. Ça colle et en même temps ça accroche à la peau. La couverture, même l'objet en lui-même, il fait Lovecraftien.
Oui,
ça fait vieux grimoire. Enfin, vraiment, c'est souple, la couverture, elle m'impressionne.
Ils ont fait un boulot de dingue là-dessus. Je crois que c'est le seul ouvrage où il y a ce type de boulot. Bon. Bah, allez-y sur les éditions Kiwi pendant toute une année. Pas de problème. Toute l'année, vous allez pouvoir acheter ces ouvrages-là pour récupérer les petites médailles. C'est un peu comme Pokémon, collectionnez-les tous. Je vous propose qu'on se refasse une toute petite pause musicale avec When the Rain Begins to Fall de Jeremy Jackson et Pièce d'Adora pour faire un clin d'œil à ma première chronique. Rain Begins to Fall, si vous êtes dans un roman de Joël, prenez un parapluie en acier. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est encore la case de Seb pour quelques minutes, pas beaucoup, mais comme on avait un peu de temps, je voulais vous proposer un petit exercice. J'avais l'instant ASMR, regardez, j'ai une grosse enveloppe. Voilà. Si je bouge, si je me remets pas devant le micro, je peux parler à côté, ça marche pas. Cette enveloppe-là, en fait, c'est une enveloppe que j'ai reçue qui, alors, sauf erreur de ma part, vient des éditions Pika.
Donc, et c'est un manga.
C'est, ouais, il y a forcément du manga.
Lucky
dedans, il y en a peut-être 4, 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Et ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre vous, en quelques minutes, hein, pas beaucoup plus, on décrive un petit peu ce qu'on voit et puis qu'on essaye d'en parler rapidement.
Mais toi-même, tu sais pas donc.
Je sais pas. Je sais, j'ai une probabilité puisque quand je reçois des colis comme ça, c'est souvent des choses que j'ai demandé.
Ah, okay.
Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans celui-là en tant que tel.
Ouais, c'est l'ouvrir. C'est la série érotique manga hard.
De porno.
Alors, ça m'est arrivé une fois parce que mes enfants adorent ouvrir ces enveloppes-là. Et un jour, j'ouvre on ouvre l'enveloppe et je fais.
Ah non, Timmy, ça c'est pas bon ça.
C'est pas bon. Allez.
Quel suspense, c'est terrible. Et Seb est en train de décacheter l'enveloppe. Il y a un chèque qui dépasse un petit peu 250 000 $.
Tends la main, prends-en un au hasard. Alors, qu'est-ce que tu as pioché?
Hop là, alors Humanimals de Takahira Kato. Donc c'est un manga. Qu'est-ce que je peux dire?
Décris plus l'extérieur, là. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire?
La couverture, on voit une espèce de bestiole avec qui tire la langue, qui a une longue queue comme un rat. Donc rien que ça, ça me répulse. Qui a des pattes de rat d'ailleurs. C'est pas un rat parce que c'est pas un rat. Voilà ce que je peux dire. Et la quatrième de couverture, c'est un pick-up, voilà, qui est chargé de corps. De toute évidence, ces corps sont morts et il y a du sang qui dégouline partout avec en fond le Fujiyama. Voilà. Et ça s'appelle Humanimals de Takahiro Kato et ça a l'air d'être le deuxième volume et c'est interdit aux moins de 16 ans.
Ouais, alors j'ai lu le tome 1, je ne l'ai pas résumé encore à la radio et ce sera l'occasion avec le tome 2 de vous faire un petit topo sur ce que ça en est. Et c'est pas, ouais, c'est plutôt pour un public vraiment averti. C'est un manga d'horreur, bien sûr. Allez, Richard est en train de piocher. Et qu'est-ce que tu as pioché, Richard?
C'est un manga, à nouveau. Star Wars Rebel et tome 3.
Décris la couve.
La couve est cool, déjà. C'est plastifié, j'ai envie de dire.
Ouais, elle est brillante. Ouais.
Et ça fait très animé, en fait. Ça fait très animé. Je savais qu'il y avait des mangas Star Wars. Je crois que c'est la première fois que j'en ai un dans les mains. Il y a un mélange animé et Star Wars en fait que je découvre.
Alors, je crois que Star Wars Rebels c'est une série animée. Et c'est peut-être l'adaptation en manga de cette série animée.
D'accord.
Ça fait très enfantin.
Il y a R2-D2.
Eh ben oui, mais c'est forcément bien. Tiens, je te laisse passer l'enveloppe à Nolwenn.
Ah, elle trépigne.
C'est Noël. C'est pas Nolwenn.
C'est un cadeau de Nolwenn. Oh là là.
Je te laisse le plus gros pour la fin, ça.
Ouais.
Pas de problème.
Alors, j'ai pioché un prospectus. Le porte-roue livraison. Pas du tout. Oh, j'ai pioché The Warrior Princess and the Barbaric King, oula, on dirait une nouvelle qui passe dans les propositions Facebook.
Ouais.
Le style est, fait un peu mi-vieux manga, mi-neuf manga, mi-récent manga. C'est presque métallique au niveau des couleurs. C'est chaud, c'est rouge-orange. C'est
cramoisi, j'ai l'impression.
Cramoisi, ouais, c'est brûlé un peu. Et là, les personnages uniquement sont plastifiés, donc ça fait briller les personnages. Donc, ça fait écho au titre, mais il y a une femme qui n'a pas l'air d'être une princesse ou alors qui est une pauvre princesse très peu vêtue et un homme bestialement habillé recouvert d'une armure ou d'une peau de bête, on saurait pas vraiment dire. Et c'est dessiné par Noyaki Kotoba. Voilà, je ne vais pas uniquement m'attarder à la couverture.
OK. Bon, on verra. T'as une indication d'âge ou pas dessus?
Je pense que c'est pour tout âge, hein, les dessins.
Ouais. Ah non.
Non, finalement, non.
Si. Si vous voulez voir un seul œil, gentiment.
Oui,
ça
il faut
va.
Bien que les enfants voient la face de la culture.
Oui, quoi,
entre ça et les lectures de Luc, ça, c'est ça, mieux. Hein.
Franchement, franchement. Non, c'est tranquille. Et puis, il y a des créatures fantastiques.
Ah, bah voilà.
Il y a des bestioles.
Et il n'y avait que 4 ouvrages. Il en reste un gros, dans le fond.
Et...
C'est pas moi. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons, c'est un album de Pika Masterpiece, donc c'est des ouvrages qui sont forcément beaucoup plus imposants. Et dessus, on voit une jeune femme qui est en train de faire du piano avec des ouvrages au sol. Ça s'appelle Nodame Cantabile, c'est de l'italien je crois, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un truc en référence à la musique. Hein.
Ne regarde pas, hein, je ne sais pas parler italien.
En plus, le titre est en relief, ce qui le rend super cool. Et il y a plein de notes de musique derrière, donc ça va certainement parler de musique. Donc ça s'appelle Nodame Cantabile, et c'est de Tomoko Ninomiya. Ça a l'air super cool ça en fait.
Il est extrêmement épais par contre.
Il est extrêmement épais. Sur la petite fiche de presse, il fait 388 pages. Et comme les masterpieces, c'est souvent des ouvrages qui sont un peu hors normes comme ça. Eh ben, on aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois.
Ça reprend quand tu as parlé du titre, ça reprend, alors je ne sais pas du tout ce que ça a à voir, mais indéniablement ça reprend le titre du roman de Marguerite Duras, Moderato Cantabile. Voilà, donc est-ce que ça a à voir, ça serait quand même dingue que un manga se mette dans les pas de Marguerite Duras, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, quand on voit Nodame Cantabile et Moderato Cantabile, on est vraiment sur une similarité de titres.
Eh ben, c'est visiblement pas adapté. Sur
c'était
ma fiche
la minute
presse.
Culturelle.
Donc c'est, mais on verra. Seule chose que je peux vous dire, c'est que ça il y aura 13 tomes dans ce format-là. Donc, prévoyez les étagères. That's all, folks. Et oui, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous a fait voyager, là, surtout au pays du soleil levant. Mais promis, on va se rattraper. Il y a que moi, en fait, qui fait du comics pour une fois. Qui est pas fait du manga. C'est
ouais,
très déstabilisant.
La prochaine fois, il y aura du comics.
Ah, de quoi tu parleras la prochaine fois, Luc?
La prochaine fois,
c'est un Batman, t'as dit.
Un Batman, oui. Dans la série One Bad Day, c'est le tome Le Sphinx. Voilà.
Eh bien, écoute, on verra ça dans 15 jours. Je vous souhaite une bonne soirée, mes chers amis ici présents et chers auditeurs. Et puis, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver l'émission sur le 101.5, sur le www.radio-g.fr dans quelques instants. Et on se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini. Rentre chez toi.